pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un seul puis des millions, je suis un homme au cœur de lion, à la guerre en toute saison, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison, dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Je fais l'amour et la révolution, je fais le tour. J'avance, avance à reculons. Oui, je tourne en rond, je tourne en rond. Tu vois, je suis pas un homme, je suis le roi de l'illusion. Au fond, qu'on me pardonne, je suis le roi.
Bonjour et heureuse de vous retrouver pour cette rentrée 2025. Aujourd'hui, je vous propose de vivre une aventure dans nos chères Pyrénées. Les vallées, la montagne, les animaux sauvages, les plantes. Et j'ai le plaisir de rencontrer un nouvel auteur pour la première fois qui va nous faire vivre cette aventure dont on ne sort pas tout à fait intact quand même parce qu'elle est très poignante dans le fond. Et je vous présente Jean-Pierre Nauté. Bonjour.
Bonjour, bonjour à vous Gisèle et à tous vos auditeurs.
Nous venons d'entendre Zazie, Je suis un homme, une musique qui, je trouve, s'accorde très bien avec ce livre que nous allons parcourir. C'est justement ça qui a guidé votre choix?
C'est exactement ça. Zazie, c'est une... Je trouve que avec quelques... une vingtaine de lignes, une trentaine de lignes dans la chanson, elle arrive à résumer tout ce que je mets 250 pages à vouloir dire. Donc, je suis en admiration totale devant ce texte.
Oh oui.
Dont le refrain que vous connaissez peut-être, je suis le roi de l'illusion, le roi des cons.
Comment vous êtes venu à l'écriture, justement?
Vaste question, vaste question. Il est fort probable que je ne me contente pas de la réalité. Mais alors, comment dire, sans vouloir paraître trop pédant et paraphraser Nietzsche, je crois qu'on a besoin, heureusement qu'il y a la fiction, pour pouvoir vivre avec la vérité.
Je vous comprends. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de cette histoire que nous allons évoquer, sans trop en dévoiler non plus?
Chaque fois que j'écris un livre, j'ai besoin de solide. Je ne peux pas partir dans une fiction sans avoir vraiment les pieds sur terre et sans avoir des choses à dire sur des faits et des choses que je connais bien. Il ne vous a pas échappé que ce livre se passe en Ariège. Il se passe dans une vallée qui ressemble furieusement à la mienne, la vallée du Stou. Il parle beaucoup de nature, je suis un homme de la nature, et il parle aussi de pays lointains, des pays du Golfe et du Qatar en particulier, où j'ai beaucoup travaillé et où j'ai une connaissance précise de la façon dont les choses se passent là-bas.
Mmh. Alors justement, vous avez étudié l'histoire, vous avez participé à beaucoup de campagnes de fouilles dans des grottes ou dans une grotte préhistorique pour finalement, comme vous le disiez, travailler dans l'industrie spatiale. Est-ce que c'est un tout qui vous a aidé dans le tissage de cet ouvrage ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Dans le bouquin, mon personnage principal, Vincent, est un courtier en assurance spatiale. C'est un métier assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est quelque chose que j'ai moi-même pratiqué, que je pratique d'ailleurs encore. C'est vraiment quelque chose de vécu et j'ai vraiment besoin de ça. Quand j'écris, je ne peux pas partir dans une fiction absolue, c'est pas possible. Il faut que je me raccroche à des éléments que je connaisse. Et je pense que c'est aussi une façon de respecter les lecteurs, d'avoir cet ancrage dans une réalité, tout de même.
De toute façon, je vous rassure, tous les auteurs mettent de leur vécu dans leur livre.
Ben oui, bien sûr.
C'est normal. Alors justement, vous nous disiez que vous habitiez une vallée dans les Pyrénées. C'est ce qui vous a conforté dans le décor du livre.
Absolument. La vallée s'appelle la vallée du Stou. Peut-être certains Toulousains ou des gens qui habitent dans le sud toulousain la reconnaîtront. J'ai changé les noms parce que je préfère que les personnes que je cite, etc., les lieux que je cite, restent un petit peu flous pour me permettre tout de même de passer à la fiction. Mais par contre, il y a beaucoup de, je dirais, de réalisme, entre guillemets, dans tout ce que je décris dans cette vallée.
Oui. Comme il y a beaucoup à dire, on va ouvrir ce bel ouvrage. Il s'appelle « H de ours », paru fin 2024. Il est paru chez Empreinte Édition. C'est une enquête du capitaine Marchand. Cette histoire soulève la vie, le vivre ensemble, la mondialisation et un tout petit coin de nos Pyrénées. Vincent dit « je dois m'adapter au lieu et non le contraire ». Est-ce que Vincent vit cette implantation pleinement ? J'ai l'impression que oui.
Ah oui, Vincent, c'est un peu moi. Il est diablement pêcheur, il adore la pêche à la mouche. En fait, il quitte son métier, donc il travaille dans l'industrie spatiale, il fait en sorte que des pays acquièrent des systèmes de télécommunication dont ils peuvent se servir de multiples façons, y compris de façon guerrière, c'est-à-dire guider des missiles, etc. Et tout d'un coup, il réalise la vacuité et l'immoralité de son travail. Il décide, de façon un peu enfantine, il faut bien le dire, de quitter son métier et de changer de vie en devenant guide de pêche dans les Pyrénées. Bon. Je dis que c'est enfantin parce qu'on a beau mettre des montagnes entre le monde et soi, le monde continue à tourner, on continue à vendre des armes, on continue à vendre des satellites, on continue à faire des tas de bêtises partout comme vous ne l'ignorez pas. Mais il se croit à l'abri et il finit par oublier le monde en se disant finalement tout va mieux depuis que je suis là. Mais non, tout va mieux pour lui, mais pas pour le monde.
Oui, en effet. J'adore votre style d'écriture parce que vous dites les choses sans les dire, ou alors c'est plutôt peut-être pour les remettre à leur place. Est-ce que ça c'est naturel pour vous?
Je pense que l'art d'écrire, c'est de suggérer, c'est pas forcément de dire.
Oui, certes.
Il ne faut pas être trop descriptif, il faut laisser l'imagination du lecteur partir parfois sur des fausses pistes et puis de revenir sur des, sur des pistes plus exactes. Bon, c'est la différence entre un roman et une étude de cas, je dirais. Oui. Voilà.
C'est vrai, vous l'avez bien fait. Est-ce que elle avec la majuscule, alors ça m'a fait vraiment rire, est importante pour Vincent ou est-ce que plutôt pour lui c'était une autre vie? Il y a une coupure là, dès le début en fait.
Oui, Vincent prend conscience de la vacuité de sa vie suite à une rupture amoureuse,
oui.
Dont on ne connaît finalement rien,
oui.
Sinon que c'était elle.
Oui.
Voilà. Et elle, elle avait des idées plus simples de la vie. Elle préférait les pique-niques au bord d'un ruisseau plutôt que les vacances aux Seychelles, pour faire court. Il prend conscience, quand elle le quitte, que finalement, la vraie vie, ce n'est pas forcément les vacances aux Seychelles.
Oui.
Ou à Zermatt.
Oui, tout à fait. Dan, le voisin, et Vincent, sont-ils plutôt des taiseux ou bien juste un ras-le-bol, repu du monde et des mondes?
Oui, Dan le Danois, qui habite une chaumière un petit peu plus bas que la maison que retape Vincent, qui se trouve en fond de vallée. C'est un taiseux. Lui, il a quitté le monde un petit peu de la même façon que Vincent. Hein, et c'était un cuisinier respecté, avec plein d'étoiles au guide Michelin au Danemark. Et il a pris conscience que nourrir des gens qui participaient de ce monde et de la folie de ce monde, c'était aussi une forme de vacuité. Il a eu besoin de se retrouver perdu au milieu des Pyrénées.
Mmh. Qui est Carla ?
Carla, c'est la mauvaise conscience. C'est la mauvaise conscience de Vincent. C'est cette jeune femme qui arrive dans la vallée, qui dit à Vincent ses quatre vérités. Mon petit ami, ok, tu as quitté le monde, mais le monde, il est toujours là, avec ses failles, avec ses cruautés, ses lâchetés. Et si tu crois que tu peux y échapper tout en étant reclus dans tes Pyrénées, vivant en érémétique ariégeois, c'est râpé.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Qui est le capitaine marchand? Mais là aussi, on ne va pas tout dévoiler tout de suite.
Le capitaine marchand. Capitaine marchand, d'abord, c'est un personnage récurrent de mes livres.
Il y a toujours l'impression.
Il y a toujours une enquête où celui-ci participe. Et le capitaine marchand, c'est un être qui, lui non plus, ne se fait pas trop d'illusions sur le monde. Qui le prend pour ce qu'il est. Alors, par contre, qui est doté d'un véritable flair de capitaine de police, tout en étant sans illusion sur l'humanité, aime bien finalement faire éclater des vérités qui ne plaisent pas à tout le monde.
Oui. Est-ce que pour justement vous aider dans le dénouement des enquêtes ou de l'enquête, je ne sais plus comment il faut dire dans ce livre, est-ce que vous avez demandé des renseignements justement à peut-être des amis gendarmes ou des amis policiers que vous avez ou je ne sais rien trop qui?
Non, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas d'amis gendarmes ni policiers. Mes sources d'inspiration, c'est plutôt des gendarmes et des policiers d'autres livres.
D'accord.
Voilà, je suis quand on écrit, on est forcément un lecteur assez avide. Et donc, j'ai lu de nombreux romans policiers.
D'accord.
Et autres.
D'accord, très bien. Le capitaine trouve que Vincent a tous les critères de suspect. Est-ce que c'est facile de faire un coupable?
Le capitaine, en fait, l'intrigue, c'est qu'on trouve un ours.
Ah, moi, je n'allais pas le dévoiler.
Entre guillemets, assassiné. Et je dis assassiné parce que les circonstances du crime font qu'il a véritablement été assassiné. Et je dis aussi assassiné parce que l'ours, pour les hommes, ça a toujours été une espèce d'animal qui se tient sur ses deux pattes arrière et qui est un sacré concurrent tout en haut de la chaîne alimentaire. Et je le personnifie, je l'humanise quelque part.
C'est vrai.
Et c'est pour ça que je me permets de dire qu'il a été assassiné. Dans des circonstances absolument tragiques que je ne dévoilerai pas.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Et le capitaine trouve effectivement que Vincent, c'est le premier qui a trouvé cet ours, tout en guidant un de ses clients à la pêche. Et il trouve que Vincent fait meurtrier, si on continue dans l'analogie de l'ours un peu humanisé, fait un meurtrier absolument parfait. Et comme le capitaine est une personne assez pertinente, il trouve que c'est un client trop parfait.
Oui. Est-ce que vous avez pensé en écrivant que ce chef-d'œuvre pourrait déranger ceux qui se disent, entre guillemets, j'ai repris votre texte, écolo, comme d'ailleurs vous l'avez écrit comme ça textuellement?
Oui, je pense que ça va déranger. Je pense que ce livre, bon, j'ai déjà pas mal de retours, ce livre oui. dérange un peu tout le monde,
oui.
mais aussi bien les écolos que les chasseurs ou que les
fait.
Anti-ours. Ou que des gens qui se contentent du monde tel qu'il est, c'est-à-dire un capitalisme débridé qui se permet d'exploiter la nature dans tous les sens. Oui,
tout
ce livre, j'espère que... En fait, oui. je souhaite que ce livre dérange.
Tout à fait,
pour tout
je
vous dire.
Comprends. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre, c'est impossible. Il faut vivre avec la nature.
Exactement.
D'accord. Tout est sous contrôle dans ce livre, surtout dans toute la première partie et une bonne... partie de la deuxième, tout est sous contrôle, c'est autorisé, labellisé, organisé. On peut faire feu de tout bois, fausse preuve, faux coupable, dans une seule condition, c'est que de temps en temps, et là encore c'est entre guillemets, on s'en occupe. Il faut dire on s'en occupe et tout est nickel quoi.
Oui.
On vit dans le monde le plus parfait possible. Mais tout ça c'est quand même une histoire politique puisque... C'est vraiment la vie d'aujourd'hui que vous nous écrivez dans ce livre.
Ben j'espère, hein. Je suis content que vous le lisiez comme ça. Il y a un personnage qui intervient dans ce livre qui est un responsable du parc naturel des Pyrénées.
Oui.
Il montre effectivement que tout est parfait, tout est bien. Bon, ben, oui, un ours a été est mort, puis un deuxième ours a été retrouvé tué aussi. Mais bon... La société s'en occupe, tout est sous contrôle, sauf que, en fait, le contrôle échappe complètement à tous ces gens.
Pour la marmite boue, comme on dit, il y a des zadistes qui viennent là pour sauver la montagne, pour sauver l'ours. Mais ça aussi, c'est encore une fois contradictoire, parce qu'ils ont des voitures, ils ont des téléphones, et ça, ça fait rire Vincent et Dan. C'est contradictoire ou pas?
Ça n'est pas contradictoire. Ça n'est pas vraiment contradictoire. Il suffit qu'aujourd'hui, si vous regardez un peu la sociologie des écologistes, en France en particulier, enfin, en particulier peut-être de trop, on trouve souvent les écologistes dans les villes. Hein. Un slogan que j'adore, qui est peint sur les murs de certaines vallées pyrénéennes, où un écologiste écrit « oui à l'ours » et où un anti-ours rajoute dans une autre couleur, sur le même slogan, sur le même mur, « oui à l'ours » en ville. Et très souvent, je connais beaucoup d'écologistes qui le sont, mais qui sont des citadins et qui sont très éloignés de la vie rurale, de la vie montagnarde, etc. Et dans mon livre, je les fais piétiner des lys des Pyrénées.
Oui.
Ils ignorent totalement ce qu'est un lys des Pyrénées, quelle est sa fragilité, etc. Mais au-delà de ça, ça ne veut pas dire que parce que vous êtes un écologiste de la ville et que vous piétinez des lys des Pyrénées, que vous n'êtes pas quelque part dans le vrai aussi.
Ah mais tout à fait, c'est bien ce que j'avais compris.
Voilà, mais il faut reconnaître que souvent vous pouvez passer à côté de choses parce que, comme la plupart des gens, tout bon écologiste peut être complètement déconnecté de la nature aujourd'hui. Nous sommes tous déconnectés de la nature.
Tout à fait.
Y compris l'auteur qui s'exprime.
Mais c'est obligé, on est obligé quelque part. Mais
ouais.
Il faut se soigner.
Il faut se soigner sérieusement,
voilà.
L'heure est grave.
Le Qatar qui s'intéresse à l'eau de nos Pyrénées, ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je me suis posé la question. En tout cas, ça relance le lecteur. Et ça, vous l'avez voulu ou pas? Parce que vous nous faites partir dans une direction et après vous nous emmenez dans une autre, là, finalement.
Oui, c'est tout à fait voulu. C'est tout à fait voulu. En fait, quand j'écris un livre, je connais le début, je connais la fin.
Oui.
Je ne connais pas vraiment le milieu. Enfin, si vous voulez, je me fais des points de repère A, B, C, D, jusqu'à Z. Je connais bien A, je connais bien Z, B, C, D, E, F, etc. C'est un peu plus flou. Ça vient au fur et à mesure de l'écriture. Mais j'arrive à retomber sur mes pieds. L'histoire du Qatar est tout à fait voulue. je réponds à votre deuxième question. Est-ce que le Qatar s'intéresse à l'eau des Pyrénées? Non, pas encore, du moins.
Heureusement. Voilà.
Par contre, qu'il y ait une grave pénurie d'eau au Qatar, ça c'est certain. Le Qatar est un tout petit pays, c'est grand comme la Corse, et ils ont une nappe phréatique qu'ils ont exploitée. Les Qataris, comme beaucoup de gens dans le Golfe, mais il n'y a pas que dans le Golfe, hein, il fort, comme dirait Trump, drill, baby, drill. Donc il fort beaucoup et ils épuisent beaucoup. Mais les Qataris, finalement, c'est une parabole parce que c'est comme nous. On a aussi beaucoup foré, beaucoup troué partout.
C'est vrai. Et on continue.
Surtout, n'allez pas penser que j'ai une dent contre les Qataris. Les Qataris
ah
sont
non,
là.
C'est pas ce que j'ai pensé. Le policier municipal Gratteloup, lui, il m'a fait poser beaucoup de questions dès le début de l'histoire parce que il est difficile à cerner dans votre livre ça aussi, si vous voulez.
C'est tout à fait raisonné, effectivement.
Oui.
Voilà, le Gratteloup, c'est un personnage qui certainement n'a pas eu de chance dans sa vie et qui est resté. C'est une fin de race. Il est resté dans sa vallée pyrénéenne.
D'accord.
Et il ne s'est vraisemblablement pas marié.
Fin de race, c'est joli ça.
Et il a certainement mal tourné dans sa tête, ce qui l'amène à commettre des choses pas très claires.
Oui. Là aussi, c'est preuve que la politique fait tout, puisqu'il n'aurait pas dû être policier municipal. Et là aussi, vous nous faites encore repartir sur une autre piste. Il le fallait justement, là, ce moment-là de l'histoire, nous faire repartir sur une troisième piste.
Parce que le sieur Gratteloup, c'est l'outil de gens mal avisés qui souhaitent s'emparer des richesses de la vallée. La richesse étant l'eau. Hein.
Oui.
C'est pour ça que ce bouquin s'appelle H2Ours, avec un jeu de mots.
H2Ours.
Et il me fallait l'outil, c'est-à-dire la personne qui soit assez malléable pour faire les basses besognes.
Oui, justement le titre, parce que je l'ai regardé sous toutes les coutures, donc oui, H2O pour l'eau et ours pour l'ours, bien évidemment. C'est vous qui avez trouvé ce titre ou est-ce que c'est un titre qui s'est affiné avec l'écriture?
Alors, il s'est affiné avec l'écriture, mais c'est moi qui l'ai trouvé.
D'accord.
Mais ma fille s'est beaucoup moquée en disant « Alors ça ne marchera pas du tout, ton titre. »
Ah si.
Mais après, elle a été convaincue.
Voilà, mais vous pouvez lui dire que ça marche. Nous allons faire une petite pause musicale. Vous nous avez choisi qui pour cette petite intermède et nous reprendre un peu le souffle?
Alors, j'ai choisi une chanson très sympathique qui s'appelle « Maria Yudina ».
Oui, et donc elle s'accorde très bien avec ce livre aussi, puisque voilà.
Maria Yudina, donc, c'est une musicienne, compositrice russe, à l'époque soviétique, à l'époque stalinienne surtout, et c'est quelqu'un qui a su tenir tête à Staline, qui aimait sa musique, et à qui elle disait ses quatre vérités de façon très crue. Et elle est passée à travers les purges, et elle a vécu toute sa vie de musicienne et a survécu aux purges de Staline, ce qui est absolument extraordinaire après
oui.
Toutes les choses qu'elle a pu lui dire. Et effectivement, elle fait écho à un personnage de mon roman qui s'appelle Hélène, qui
oui.
est une écologiste,
tout
qui
à fait.
Me rappelle Maria Yudina. Et puis j'aime bien la chanson aussi.
Oui, elle est très belle, on va l'écouter.
Non, je ne suis pas Maria Yudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant, j'entends les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas. Pas de symphonie au bout de mes doigts. J'entends taper les marteaux si souvent là sur le suis pas Maria Iudina. Du mystère au gant de fer, toujours la première à garder la foi. Mais j'entends, mais j'entends taper les marteaux aux accents résistants grâce à son.
Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Page après Page, je suis en compagnie de Jean-Pierre Noté. Il nous présente H de Ours, paru fin 2024 chez Empreinte Édition, une enquête du capitaine Marchand. Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a poussé à dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas sur l'homme, sur ses actions, sur l'appétence du pouvoir, de l'argent au royaume Terre? J'aime bien cette expression, le royaume Terre.
Voilà une question large. Écoutez, en fait, votre question, c'est pourquoi on écrit un roman? Je ne peux pas me permettre d'être optimiste. Et pourtant, j'ai très envie d'être optimiste. Et ma seule façon d'être optimiste, ben, c'est d'écrire de la fiction. Mm-hmm. Et dans la fiction, on peut se permettre d'être outrancier, d'être, de viser ce qui ne marche pas, ce qui ne tourne pas rond dans le monde. Et on peut y aller autant qu'on veut, autant que la plume le permet. Et pour tout dire, j'aime bien les histoires qui se terminent bien, puisque je suis optimiste, puisque oui. Dans un roman, je me permets d'être optimiste. Et là, tout le monde apprend pour son grade, si j'ose dire, tout ce qui, à mon sens, hein, et seulement à mon sens, tout ce qui, à mon sens, ne tourne pas rond dans le monde, c'est-à-dire une espèce de capitalisme complètement débridé, qui exploite la nature jusqu'à la dernière goutte. C'est le cas de le dire ici, puisqu'on parle de l'eau.
Tout à fait.
Des gens qui profitent de la moindre faille pour faire de la politique. On le voit bien aujourd'hui. Mon bouquin, quand je l'ai écrit, la loi Duplon n'existait pas, mais,
oui.
Mais elle existe aujourd'hui. Hein. Tout ça me révolte. Et dans mon bouquin, je me permets d'être optimiste et de faire en sorte que ces gens qui souvent nous mentent, profitent de tout, eh bien, ne soient pas les gagnants à la fin.
Oui. Justement, Norbert au grand discours, qui est député européen, politique avant tout, quel est son dessein au moment où vous le mettez dans l'histoire pour brasser l'air et peut-être pour mieux régner de cette façon-là?
Ben, Norbert, c'est le méchant. C'est le méchant,
oui.
Mais c'est le méchant comme on en trouve des tas aujourd'hui.
Oui.
voilà, je ne vais pas faire de politique, mais c'est un vrai méchant. Il profite de toutes les failles pour s'enrichir. Il n'a absolument aucune limite dans la perversion. Et si on peut vendre tout, ben, vendons-le, quelles qu'en soient les conséquences.
D'accord. D'accord. Vincent est prié d'aller au Qatar. On l'improvise espion. Est-ce qu'il était à l'aise, justement, dans cette façon de travailler, parce que c'était du mensonge pour lui? Et surtout, quand il s'est retrouvé face, justement, à la porte de l'ascenseur où il a vu une personne qui, peut-être, il n'aurait pas dû voir.
Vincent, vous parlez de mensonge. Vincent, il est quand même pris dans une spirale de violence dans sa propre vallée. Il est suspecté à un moment d'avoir tué les ours et il va jouer son rôle d'espion, mais je ne dirais pas vraiment de mensonge, parce que lui, il veut s'en sortir. Quelque part, il veut faire triompher la vérité. Donc, la part de mensonge là-dedans, c'est plutôt... il prend le costume d'espion, mais je ne parlerai pas de mensonge.
D'accord.
Après, je pense qu'il est tout à fait à l'aise, parce que finalement, repartir dans les pays du Golfe qu'il a bien connu dans une autre époque de sa vie, avant d'être guide de pêche, faire des négociations internationales, c'est son truc. Donc, en fait, il est parfaitement à l'aise.
D'accord.
Et je l'ai voulu à l'aise.
D'accord, d'accord, très bien. On se retrouve avec deux ours, plus deux ours, des morts, des zadistes, des contrats mondiaux, des détournements et pas que d'argent. La pluie qui tombe où elle veut, il y a la radio, les journalistes, le capitaine a bien besoin des lumières de Carla, de Hélène, de Dan, de Hérolf, de Vincent. En tout cas, vous avez créé là un énorme tourbillon, je dirais même presque un ouragan, qui emporte le lecteur sur tous les fronts. C'est ça que vous vouliez aussi nous faire mener, cette enquête multiple mais tellement unique ?
Au départ, pas forcément, mais au fur et à mesure où j'ai créé mes personnages, je les ai imbriqués. Le centre névralgique de tout ça, c'est la grange de la Hilo qu'a restauré Vincent. Oui. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ces personnages-là, au fur et à mesure de la construction du livre, devenaient des amis, échangés, et comment dire, comme un Rubik's Cube, regarder toutes les facettes de la progression de l'enquête, de l'énigme, et ils le regardaient chacun à sa façon. Dan avec sa façon de cuisinier et de chasseur, comme quoi je ne suis pas si anti-chasse que ça. Et puis Vincent avec son approche internationale, vécue et son amour de la nature. Le capitaine avec son intelligence policière d'un vieux policier qui va prendre sa retraite. Hélène avec sa connaissance approfondie de l'écologie et de la façon de faire passer le message écologique. Puis Carla avec sa science humaine.
Oui, oui, oui. Vous nous faites partir dans toutes les directions pour mieux nous attraper après, à la fin peut-être.
Ah ben oui.
En tout cas, c'est réussi. J'y suis allée à fond tellement c'était réel. C'est vrai que quand on lit ce livre, on dit oui, c'est vrai, c'est réel. Comment vous avez géré votre travail justement ? Est-ce que vous avez fait un cadre, une grille, ou est-ce qu'il a fallu garder les chemins sans vous perdre ? Vous disiez tout à l'heure que vous faisiez avec des lettres.
Oui, voilà. Au début d'un roman, je connais mon point d'entrée, je connais l'endroit où je veux arriver, et puis je mets des étapes clés, un certain nombre.
Oui.
Pas forcément 26 comme l'alphabet, mais je ne sais plus combien il y a de paragraphes. Mais...
Oui.
Et je vais de A à B, et puis je suis censé aller de A à B, de B à C, de C à D, etc. Vous écrivez A, généralement le A se tient parce que c'est vraiment votre point de départ, vous l'avez peaufiné pendant plusieurs nuits en y pensant, etc. Et puis quand vous écrivez de A à B, B se transforme en B' souvent,
et oui,
qui vous amène à 16 secondes. Je ne vais pas vous faire toutes les étapes, mais je finis toujours par le vrai Z que j'avais imaginé.
D'accord.
Voilà, mais les chemins... sont parfois différents que ce que j'avais imaginé au départ, c'est
certain. Même s'il y a un jalon où vous avez dit, bon là il y a une histoire d'eau, même si c'est l'histoire politique qui vient se greffer, mais c'est un autre chemin qu'il vous faut. En tout cas, vous prenez des chemins de traverse.
Mais en tout cas, l'idée de cet ours curieusement assassiné et de ce besoin d'eau des Qataris avec des moyens sans limite, était déjà le A et le Z de mon roman.
Tout à fait. Comment est-ce que vous avez fait pour persuader le capitaine Marchand à se raviser quant à tout ce petit monde qu'il avait autour ? Parce que finalement, il en a eu besoin.
Et le capitaine Marchand, c'est un observateur.
D'accord.
Il se dévoile jamais, etc. Donc, le capitaine Marchand, il a pas besoin qu'on le convainque. Il sait faire son chemin, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui est observateur, qui dit pas grand-chose, qui... semble parfois dire des choses à contre-temps, parce qu'il poursuit son raisonnement en observant les gens.
D'accord.
Et il se fait sa propre idée. Mm-hmm. Alors le capitaine Marchand, je le connais bien, parce que j'en suis à mon quatrième ou cinquième roman avec lui, donc
Oui, donc, c'est votre ami.
Ouais, c'est mon copain.
D'accord. La disparition des Rolf, l'accident, vous l'avez créé pour déboucher la bouteille, finalement. À peine vos personnages trouvent qu'ils doivent faire face à d'autres énigmes, c'est-à-dire que vous êtes là, paf, vous enlevez le bouchon, il y a autre chose qui arrive.
Oui, la disparition tragique des Rolf, c'est d'abord, c'est l'aspect dramatique, c'est l'agmé du bouquin, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire place nette dans la vallée pour pouvoir exploiter l'eau au profit du Qatar, ben, leur personnage de Gratteloup, là, qui est l'exécuteur des basses œuvres, ben, tout d'un coup, c'est lui qui déraille. Hein, et c'est le grain de sable dans la machine des méchants qui ne marche pas et qui permet l'intensité dramatique du livre et qui montre que finalement... les méchants sont vraiment très méchants.
Oui, tout à fait, tout à fait. Nous avons dans cette vallée des ours qui rôdent, mais pas que des ours, justement, on vient d'en parler un petit peu. Qui est Titine ?
Titine. Titine, c'est la mémoire de la vallée. C'est elle qui permet de comprendre tout l'historique de la vallée, toutes les animosités qui se sont créées entre les uns et les autres. Et je dois dire que, je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire quand même. souvent, dans les vallées reculées de nos montagnes, il y a beaucoup d'inimités qui datent de plusieurs dizaines d'années.
Oui, comme dans les villages.
Et qui se perpétuent, oui. Oui, peut-être, comme dans les villages.
qui est l'intérêt vivante de la Fount ? Est-ce que c'est un personnage clé ?
C'est un personnage clé, bien sûr que c'est un personnage clé. C'est, je dirais même que c'est la clé de voûte, parce que c'est elle qui permet de comprendre justement tout. C'est la clé de l'énigme, parce qu'elle permet de faire le lien entre tous ces gens qui, il y a des dizaines et des dizaines d'années, se sont battus, en particulier lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait, tout à fait. Vincent qui se refuse à prendre parti pour qui et quoi que ce soit. Il est attaqué aussi par deux ours. Comment est-ce que vous avez fait pour le sauver, sans trop en dire encore ? Parce qu'il faut lire le livre.
Il faut lire le livre. C'est une question piège.
Non, mais je veux dire par là, parce qu'il fallait le sauver, ce Vincent, sinon l'histoire n'avait pas lieu d'être, quoi.
Ouais, alors, effectivement, Vincent, quand il commence à toucher la vérité, il devient un personnage gênant.
Oui.
Et il faut le faire disparaître. Il faut le faire disparaître, et le faire disparaître tout en profitant de sa disparition, c'est-à-dire, encore une fois, l'ours a le mauvais rôle dans cette histoire-là, et il faut le faire disparaître grâce à des ours.
Oui. Moi, je pense que ce livre ferait un bon film, mais à une seule condition, de ne rien y changer et de ne rien rajouter, comme souvent ça se fait. Que diriez-vous si un jour on vous le propose ? Est-ce que vous voudriez qu'on ajoute ou qu'on change quelque chose ou pas ?
Normalement, ce que je dirais, je ne dirais rien, je sauterais de joie. Bon, après, je pense que l'écriture d'un livre et l'écriture d'un scénario de film, c'est deux choses différentes. Je suis sûr que si ça se faisait, les gens auraient besoin de changer des choses. On en discuterait.
Ah, ça serait dommage. Je trouve que ça serait dommage. Comment la montagne, la vallée, se retrouve dans cet imbroglio de contraste sur la tête ? Et est-ce que c'est la mondialisation ou alors l'appât du gain plutôt ? Les deux ?
Vous faites une différence entre la mondialisation et l'appât du gain ?
Du tout.
Ça converge, hein, tout
oui,
de même.
Tout à fait.
Voilà, je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais je trouve que ça converge.
Non, mais parce que pour par exemple, le député, c'est plus l'appât du gain pour lui ?
Oui, c'est l'appât du gain, mais il profite de ça parce que dans un monde sans limite, hein, comme on le croit toujours aujourd'hui, tout est permis. On peut vendre de l'eau aux Qataris.
Oui, tout à fait, mais bien
voilà,
sûr.
Voilà, il y a un siècle, vous ne pouviez pas vendre de l'eau aux Qataris, ça n'avait aucun sens.
Oui.
Et
oui,
désormais,
oui.
Ça a un sens.
Oui, enfin, pour ceux qui veulent le croire.
Comment dire, ça a un sens. Je ne porte pas de valeur sur ce sens, mais ça a un sens.
Oui, voilà. Tout à fait. Vous avez fait cavaler Vincent, ses amis, Gigi, qui est sa petite chienne, Vincent. Hein,
voilà, qui est un personnage essentiel aussi.
Tout à fait, parce que la pauvre... Non seulement dans le monde mais aussi dans le Palais de l'Europe, à Paris. Est-ce que ça, ce moment-là, parce que ces pages-là, finalement, elles sont importantes, mais elles embrouillent un petit peu le lecteur, ou alors c'est peut-être...
C'est voulu.
Et peut-être pour faire plus vrai.
Encore une fois, je suis très attaché. Je ne peux pas ne pas écrire sur des choses qui sont palpables, oui. Sur ce que je connais, etc. Donc, j'espère que, comme vous le dites, ça fait réaliste. Et c'est bien aussi de montrer au lecteur la complexité du monde. Mm-hmm. Voilà, il ne faut pas s'en cacher.
Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que je me suis dit, mais purée, mais c'est... Vous avez dû réfléchir pour nous faire cavaler comme ça. Le capitaine Marchand comprend enfin son erreur et revient sur son jugement tout premier. Quel est le personnage qui vous a donné le plus de fil à retordre dans tous ces personnages-là ?
Je pense que c'est Vincent.
D'accord.
C'est le personnage principal parce que Vincent, il fallait l'amener tout en douceur. À une prise de conscience, c'est-à-dire que même s'il a voulu se réfugier dans ces montagnes pour oublier un monde qu'il n'aime pas, il a fallu l'amener tout en douceur pour qu'il accepte de reprendre l'avion et pour essayer d'aller traquer la vérité là où elle se trouvait, c'est-à-dire au Qatar en l'occurrence. Mmh,
d'accord. Alors je vais peut-être me répéter, mais votre fil conducteur finalement... c'est bien la cause humaine ou pas ? Et la nature, ça va de soi.
Mon fil conducteur, c'est certainement la nature, ça va tout à fait de soi. Et je crois qu'en fait, tout ça est une parabole. Ce que je souhaitais exprimer par là, l'ours est une parabole. C'est-à-dire que ce qui était important pour moi, c'était l'idée qui est sous-jacente à tout ça, c'est de dire, ben voilà, si on extermine l'ours, on s'extermine nous-mêmes. Ce qui me paraissait important, c'était de faire un bouquin dans lequel on se dise, voilà, l'homme s'est exclu de la nature. Donc il y a l'homme et la nature. On a inventé le mot nature. Le mot nature, c'est tout ce qui n'est pas civilisation, humanité, etc. C'est à l'opposé de ma pensée philosophique. Moi, je pense que nous sommes partie de la nature. Nous sommes une partie intégrante de la nature. Et que donc, quand on exploite trop la nature, quand on la détruit, on se détruit nous-mêmes. Et ça, c'était vraiment ma pensée.
Tout à fait, je comprends.
Si vous voulez, pour moi, l'ours est un cousin. Alors, c'est un cousin très pénible. C'est-à-dire, si vous tombez sur un ours, ça m'est arrivé, vous avez peur. Voilà, l'ours, il attaque des brebis, et il fait des tas de choses qui nous embêtent. Mais si on se débarrasse de tout ce qui nous embête, je pense qu'on est foutu.
Il ne va pas rester grand-chose.
Non, il ne va pas rester grand-chose, effectivement. Donc, on est foutu, véritablement foutu. Et l'humanité devrait prendre... Enfin, ce mot humanité, qui nous exclut de la nature, je ne l'aime pas trop. Mais enfin, oui. Bon, il faut bien parler. L'humanité devrait prendre conscience de ça. Nous sommes partie intégrante de la nature.
Point. Tout à fait. Vous avez raison. Un petit village au fin fond des Pyrénées qui se retrouve au cœur de la mondialisation, du monde du pétrole, du monde de l'eau... Vous avez dû parler avec les gens du CRU, forcément, puisque vous êtes d'une vallée des Pyrénées, pour pouvoir justement ancrer tout comme il faut et à leur place.
J'ai parlé avec eux, mais en fait, ça fait 35 ans que je parle avec eux, donc oui. je les connais bien. Dans la réalisation du bouquin, j'ai peu parlé avec eux, parce que je savais déjà beaucoup de choses, mais oui. quand même un peu.
Enfin, vous avez appris d'eux pour pouvoir...
Oui, bien sûr, voilà. bien sûr,
d'accord.
Tout à fait.
D'accord. Est-ce que vous pensez que cette situation peut déranger les hautes sphères ? Est-ce que vous pouvez un petit peu imaginer que c'est la boule de pétanque qui s'en va ou le chat qui vient dans les quilles ?
Alors, je n'ai pas cette prétention-là. je suis très modeste.
Mais bon.
Je ne sais pas.
À un moment, cette question s'est imposée. J'ai dit, mais si quelqu'un arrive à lire ce livre ailleurs...
Oui, non, mais il est volontairement dérangeant pour beaucoup de personnes, j'en ai bien conscience, mais allez, combien de personnes vont lire ce livre ? 1000, 2000 ? Soyons modestes. Hein, voilà.
Oui, certes, mais bon, il peut déranger. Est-ce que le capitaine Marchand a pris la retraite avant l'âge? Est-ce qu'on peut penser à des avantages en échange des silences? Parce que cette fin-là du capitaine m'a posé des questions.
Alors, c'est une question facile pour moi. Le capitaine Marchand, de fil en aiguille, de roman en roman, il est toujours prêt à prendre la retraite, il ne la prend jamais.
Ah d'accord.
Et ça me rappelle étrangement quelqu'un. C'est la personne qui parle à votre micro. Voilà.
En tout cas, cette lecture, comme on vient de le dire, m'a fait penser à une citation. L'homme a perdu son cerveau d'animal, il tue l'homme. Est-ce que vous avez un autre livre en route?
J'ai écrit quelques pages. J'ai deux livres en route. Il va falloir que je choisisse parce que je ne pourrai pas faire les deux à la fois.
Oui.
Voilà, mais oui, j'ai absolument un autre livre en route.
D'accord, bon, très bien. Ma citation, qu'est-ce que vous en pensez?
Vous pouvez la répéter.
L'homme a perdu son cerveau animal, il tue l'homme. C'est tout à fait dans le...
C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. On a perdu notre part d'animalité, comment dire. On ne peut pas du tout imaginer une espèce animale qui détruit son propre environnement. Ça n'existe pas. On ne peut pas imaginer des abeilles qui détruisent les fleurs. On ne peut pas imaginer des chevaux qui détruisent l'herbe. On ne peut pas imaginer des lions qui réduisent à néant les troupeaux d'antilopes. Ça n'existe pas.
Oui. Et
il n'y a que l'homme...
Il va se nourrir, il va prendre ce dont il a besoin, mais il va respecter le reste.
Exactement. Il n'y a que l'homme qui est capable de faire ça. Et il a perdu son animalité, et c'est un vrai problème. Et alors, en plus, l'homme n'a... Je ne veux pas vous amener trop sur un terrain philosophique, mais comment dire, les dinosaures ont vécu 150 millions d'années. Nous, ça fait... Bon, je ne parle que d'Homo sapiens. Nous sommes là depuis un maximum de 200 000 ans. Et on n'y arrivera pas. On n'est pas aussi intelligent que les dinosaures, visiblement. On ne va pas tenir 150 millions d'années à ce rythme.
C'est sûr. Et encore, les tout premiers humanoïdes, on va dire, enfin, les tout premiers humains, avaient quand même le sens de la nature et ils respectaient énormément la nature.
Eh bien oui, mais on a perdu ça.
On a perdu notre cerveau primaire?
Je ne le qualifierais pas de primaire.
D'accord. En tout cas, ça a été un grand plaisir de lire ce livre. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup de me l'avoir confié. C'est une lecture facile, fluide, comme l'eau d'ailleurs, qu'on a touchée tout le long des pages. Pleine d'humour, pleine d'émotions, de questions vraies, parce qu'il y a aussi cette corde sensible, des remises en question qui se font, et des pensées, et des... Oui, des remises en question... Mais de bon sens, je pense, en tout cas je parle pour moi. Merci Jean-Pierre de me l'avoir confié. Vous, l'enfant de Rieux, vous auriez pu planter cette histoire justement autour du Papegé et autour de l'eau de la Rize. Pourquoi la montagne? Parce que vous y vivez ou parce que ça n'a pas fait tilt, tout simplement?
Honnêtement, c'est difficile d'imaginer un ours au Papegé. Mais... Je vais réfléchir à cette question. Voilà.
Mais vous auriez pu très bien, autour du Papegé et autour de l'eau de la Rize, faire une histoire...
Je peux vous dire quelques mots sur l'eau de la Rize, parce que ça me touche beaucoup. C'est la rivière de mon enfance, c'est là où je pêchais des barbeaux, des goujons, des sophies, des sièges, tout un tas de choses qui ont totalement disparu. Ça m'émeut profondément, parce que je pense que personne... Pas grand monde, du moins, n'est sensible à ce qui se passe sous l'eau. On voit la surface de l'eau, on voit toujours une belle rivière, sauf que dessous, ben, c'est totalement différent de ce que ça a été pendant des siècles. Et c'est encore un autre signe de ce que l'humanité est capable de faire à la nature, et c'est extrêmement triste.
Je suis d'accord avec vous. Jean-Pierre, il faut déjà nous quitter, on pourra encore en parler autant. merci de votre confiance et vous avez choisi une musique pour la fin et je vous laisse aussi le mot de la fin.
Ouais, j'ai choisi Alain Souchon d'abord parce que j'adore Alain Souchon et puis je trouve que dans cette chanson où il s'agit de regarder sous les jupes des filles, il dit beaucoup de ce que l'humanité est capable de faire. Avec toute sa testostérone qui l'a conduit à chasser, à exploiter, à couper, à casser, à polluer, etc. Donc, je me retrouve beaucoup dans cette chanson d'Alain Souchon et j'espère que vous aurez plaisir à l'écouter.
Merci beaucoup Jean-Pierre et puis peut-être à bientôt, on ne sait jamais.
Je vous remercie beaucoup.
Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elle, dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas, qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge, fanfare bleu blanc rage, vert de rouge et vert de rage, l'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, affières, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles.
Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.